francocentre.com.
Bonjour Victoria, embarquement immédiat dans l'émission Le Débrief, c'est Alexis Gagnon avec vous au cours des 60 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la fréquence 107.9 FM. Vos revues de presse, édition des 18 et 19 mai, vont débuter dans un instant. Bonne émission à tous. Vous écoutez Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les 18 et 19 mai. On met d'abord l'accent sur cet incident survenu à Times Square à New York. Une voiture fonce sur la foule. Un mort et 19 blessés, c'est rapporté dans tous les médias, bien sûr. Une voiture a renversé des piétons jeudi en fin de matinée sur Times Square à New York, l'une des places les plus fréquentées de la planète, faisant au moins un mort et 19 blessés, selon un bilan encore provisoire des pompiers. Donc, je vous lis quelques lignes de ce qu'a fait paraître le journal La Presse. Voici les faits qui étaient connus à 13h30 heure de l'Est. Juste avant midi, une voiture a happé plusieurs piétons à Times Square au cœur de New York. L'agence de presse Associated Press a rapporté un mort et au moins 20 blessés. On se transporte au Brésil, une nouvelle qui paraît sur le portail de RFI Radio France Internationale. Nouvelle effervescence politique au Brésil, un peu plus d'un an après la destitution de Dilma Rousseff, c'est son successeur Michel Temer qui est dans la tourmente. Selon le quotidien O Globo, Michel Temer aurait payé le silence d'un allié gênant dans une affaire de corruption. Une demande de destitution a déjà été présentée au Congrès. C'est signé par le journaliste Martin Bernard, qui est le correspondant de RFI au Brésil. Des manifestants se sont très vite rassemblés dans la soirée du 17 mai 2017 devant le palais présidentiel à Brasilia, où de nombreux véhicules sont venus klaxonner sous les fenêtres de Michel Temer et réclamer sa démission. Une manifestation a également eu lieu à Sao Paulo pour réclamer des élections anticipées. Ce nouveau rebondissement a eu l'effet d'une bombe dans le pays, rapporte RFI. Michel Temer aurait en effet acheté le silence d'Eduardo Cunha, ancien président de la Chambre des députés, lui-même condamné à la prison pour corruption. Le média O Globo affirme que le procureur général serait en possession de preuves sous forme d'enregistrement. Information pour le moment non confirmée par le procureur en question. Économie américaine à présent dans le quotidien financier et économique Les Échos. Fonds de pension, la nouvelle crise qui menace les États-Unis. Les régimes de retraite de fonctionnaires seraient sous-financés à hauteur de 3,8 milliards de dollars aux États-Unis, rapportent les Échos. Ils pourraient plonger le pays dans une nouvelle crise, à l'instar de celle des subprimes immobiliers en 2007-2008. La faillite de Détroit avait mis le problème en lumière. Celle de Porto Rico n'a fait que le confirmer. Les collectivités locales américaines ont développé des régimes de retraite qui les obligent à s'endetter massivement au risque de faire parfois banqueroute, rapporte le quotidien. Les Échos. Une poignée de villes s'avère déjà incapable de payer les pensions promises à leurs retraités. Certaines villes les amputent ces pensions de plus de moitié, à l'instar de la petite commune californienne de Loyalton. À défaut de s'attaquer directement à leurs fonctionnaires, d'autres font le choix de ne plus payer leurs factures. C'est le cas de l'Illinois qui affiche plus de 14 milliards de dollars d'impayés. Les fonds de pension publique auraient besoin de 3,8 milliards de dollars supplémentaires pour honorer leurs engagements à l'égard des retraités actuels et aussi futurs, indique l'Institut Hoover, un cercle de réflexion rattaché à l'Université de Stanford. Donc vous trouverez cette nouvelle dans le portail leséchos.fr. On reste sur le portail leséchos.fr pour cette nouvelle concernant l'endettement des Américains. Les Américains sont plus endettés qu'au moment de la crise financière de 2008. C'est par le journaliste Étienne Götz. La dette cumulée des ménages aux États-Unis s'élève à 12,7 milliards de dollars actuellement, une situation ni noire ni blanche, estime la Fed de New York. Un nouveau seuil vient d'être franchi, rapportent les Échos. Aux États-Unis, l'endettement des ménages a dépassé son pic, atteint en 2008 durant la récession. Selon les données de la Fed de New York, la dette cumulée s'élève à 12,7 milliards de dollars contre 12,6 milliards de dollars au troisième trimestre de 2008. Politique américaine encore, cette fois dans les colonnes du journal Le Monde. États-Unis, un procureur spécial va enquêter sur le rôle de la Russie dans l'élection de 2016. L'ex-directeur du FBI, Robert Mueller, va se pencher sur les liens entre Moscou et la campagne de Trump. « J'attends avec impatience que cette affaire soit classée », a réagi le président Donald Trump à la nouvelle de l'entrée en fonction de ce procureur. Lundi 15 mai, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, se voulait encore catégorique. « Franchement, a-t-il dit, il n'y a pas besoin d'un procureur spécial pour superviser l'enquête en cours sur les interférences russes lors de la dernière campagne présidentielle américaine. Nous l'avons déjà dit, deux commissions du Sénat y travaillent, le FBI procède à ses propres investigations et le directeur par intérim, Andrew McCabe, au FBI, a clairement précisé qu'il a les ressources nécessaires et que le travail se poursuit. Deux jours plus tard, les certitudes de la Maison-Blanche ont été balayées par la décision du ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, de désigner un procureur spécial pour superviser une enquête devenue de plus en plus sensible au fil des événements et des révélations de la presse. Donald Trump, encore lui, cette fois dans le journal Ouest France, les parieurs en ligne misent sur sa destitution. Les paris en ligne prédisant la destitution de Donald Trump se multiplient depuis la tempête provoquée par le limogeage du directeur du FBI, James Comey, et les révélations qui ont suivi. Reste que si quelques élus du Congrès américain ont appelé à une procédure de destitution du président américain accusé d'entrave à la justice, une telle perspective reste hypothétique, faute de soutien politique, écrit le journal Ouest France. Sur le site de Paris sur les événements politiques et financiers Predicted, la probabilité de voir le président des États-Unis destitué en 2017 a atteint un taux record de 30% mardi dans la soirée, dans des volumes d'échanges nourris après les révélations du New York Times d'une note de James Comey compromettante pour le chef de la Maison-Blanche. Premier voyage de Donald Trump à l'étranger. On a une nouvelle sur le portail de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Le président Omar El-Béchir, président du Soudan, invité à un sommet à Riyad, en Arabie Saoudite, avec Donald Trump. Le président soudanais Omar El-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour génocide, a été invité au sommet qui doit se tenir dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite, en présence du président américain Donald Trump et d'une cinquantaine de dirigeants arabes et musulmans. Omar El-Béchir a été invité par les autorités saoudiennes au sommet qui doit avoir lieu dimanche 21 mai à Riyad, en présence de Donald Trump et de plusieurs dirigeants musulmans, selon les déclarations d'un responsable saoudien à l'agence France Presse. Cependant, le responsable en question n'a pas été en mesure de dire si le président soudanais viendrait au sommet. Omar El-Béchir, rappelle cet article de jeuneafrique.com, est toujours visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, pour des accusations de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la région du Darfour. On demeure quelques instants dans les colonnes du journal Ouest France pour cette nouvelle concernant le virus WannaCry. La Chine met en garde contre un virus plus puissant que WannaCry. Après le virus WannaCry, la Chine encourage les utilisateurs de logiciels Windows à se protéger contre un nouveau rançongiciel ou ransomware, si vous préférez, qui pourrait faire encore plus de dégâts. Le virus UWIX crypte et renomme des fichiers grâce à une faille dans le système d'exploitation de Windows, a expliqué cette semaine le Centre national de réponse d'urgence aux virus informatiques, appelant les utilisateurs à installer la dernière mise à jour disponible. Même si aucune contamination n'a pour l'heure été détectée en Chine, le virus s'est répandu dans d'autres pays, suscitant une alerte la semaine dernière de la part de la firme danoise de cybersécurité Heimdall Security. Le rançongiciel UWIX prend le relais de WannaCry, mais sans interrupteur et avec les mêmes capacités d'autoreproduction qui lui permettent de se répandre très rapidement, a averti la firme danoise. L'absence d'interrupteur pour stopper la propagation du virus signifie que UWIX pourrait être encore plus puissant que WannaCry, a ajouté l'entreprise danoise. Mais d'autres experts estiment que UWIX se répand beaucoup moins vite que WannaCry. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Ouest France. La Chine met en garde contre un virus plus puissant que WannaCry. L'info se poursuit dans cette revue de presse internationale. On va se transporter du côté du média indépendant Mediapart. L'ONU prévoit 200 000 réfugiés supplémentaires fuyant Mossoul en Irak. Plus de 200 000 civils pourraient être contraints de quitter Mossoul, estiment les Nations Unies jeudi, alors que les forces gouvernementales irakiennes intensifient les combats pour reprendre la partie occidentale de la grande ville du nord de l'Irak, tenue par le groupe État islamique. Alors que les opérations militaires s'intensifient et se rapprochent de la zone de la vieille ville de Mossoul, nous estimons que 200 000 personnes supplémentaires pourraient fuir, a déclaré Liz Grand, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Irak, dans un communiqué. Les djihadistes de l'organisation État islamique ne contrôlent plus que 12 km² dans Mossoul, a déclaré mardi un porte-parole militaire irakien. Après 7 mois d'offensive militaire contre ce bastion irakien de l'État islamique, les djihadistes ne tiennent plus que quelques quartiers de la moitié ouest de la métropole, dont la vieille ville. Le gouvernement irakien fait le maximum pour pouvoir annoncer la victoire avant le début du mois de jeûne du Ramadan, qui commencera le 27 mai, même si des poches de résistance demeurent dans la vieille ville, ont déclaré des officiers de l'armée irakienne. Dans le fil de l'agence Reuters, à présent, 20 cas d'Ebola confirmés ou suspectés en République démocratique du Congo, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a fait état cette semaine de 2 cas confirmés de contamination par le virus Ebola en République démocratique du Congo et de 18 infections possibles. Sur ces 20 personnes, 3 sont mortes, précise l'OMS dans une mise à jour de son premier point sur la question effectuée la semaine dernière. Le risque d'une contamination au niveau national est élevé, mais les cas ayant été détectés dans une zone reculée, la mise en place logistique d'une campagne de vaccination expérimentale est très difficile, indique l'Organisation mondiale de la santé. Et dans une autre nouvelle, on nous apprend que l'OMS va tester un vaccin contre l'Ebola, un vaccin expérimental contre le virus Ebola, pourrait très rapidement être testé dans la zone du nord-est de la République démocratique du Congo, touchée par une épidémie, a annoncé l'OMS cette semaine. C'est dans le journal Ouest France. Dans le journal Le Monde, 3 choses à savoir sur l'élection présidentielle iranienne. Les Iraniens votent vendredi 19 mai pour élire leur président. Tour d'horizon sur les candidats, les règles de scrutin et les pouvoirs du président iranien. Qui sont les candidats et comment sont-ils désignés? Initialement, 1600 personnes s'étaient inscrites à l'élection présidentielle, mais seules 6 candidatures ont été approuvées. C'est au Conseil des gardiens de la Révolution qu'il est revenu d'analyser et de vérifier les candidatures. Mahmoud Ahmadinejad, qui a effectué 2 mandats de président de 2005 à 2013, s'était ainsi enregistré pour concourir cette année, mais a été disqualifié. Au bout du compte, ce sont 4 candidats qui se présentent devant les électeurs et les électrices. Mais en réalité, il n'y a que 2 vrais candidats, écrit le journal Le Monde. Le président sortant, Hassan Rouhani, 68 ans, au pouvoir depuis 2013, et son principal rival, Ebrahim Raisi. Quelles sont les règles du scrutin maintenant? Autre point dans cet article du journal Le Monde. La Constitution exige que le président soit un chiite pieux, donc un musulman chiite pieux. Celui-ci est élu pour un mandat de 4 ans. Une même personnalité ne peut faire au maximum que 2 mandats consécutifs. Pour gagner, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés. Je vais au point suivant. Quels sont les pouvoirs du président iranien? La présidence en Iran reste subordonnée au guide de la révolution qui, dans la théocratie qu'est ce pays, où le pouvoir des religieux est immense, a le dernier mot sur les questions étrangères et intérieures. Ce chef suprême est actuellement l'ayatollah Ali Khamenei, né en 1939 et à ce poste depuis 1989. Ali Khamenei est le premier juriste islamique qui peut interpréter les documents religieux et la loi islamique, la charia. Il est désigné par l'Assemblée des experts, composée de 86 membres, élus tous les 8 ans au suffrage universel et qui peuvent, en théorie, le destituer en cas d'incapacité ou de maladie. Alors, si vous voulez approfondir pour connaître davantage le système électoral iranien, c'est dans le journal Le Monde, 3 choses à savoir sur l'élection présidentielle iranienne. C'est une nouvelle dont on vous avait parlé dans le débrief à propos de Greenpeace qui fait face à des poursuites de la part d'un géant de la foresterie canadienne. L'article, ce sujet fait le tour du monde. Je vous lis quelques lignes d'un article qui paraît dans l'hebdomadaire, dans le site de l'hebdomadaire telerama.fr. Greenpeace en procès contre Résolu, l'ONG écolo est-elle en danger? C'est signé par la journaliste Véronica Zarachowicz. Attaqué en justice de manière disproportionnée par le papetier canadien résolu, l'ONG Greenpeace est au cœur d'un incroyable feuilleton judiciaire où il est question de forêts et d'enjeux commerciaux, mais aussi de liberté d'expression. Entretien avec Clément Sénéchal, chargé de campagne chez Greenpeace France. Greenpeace a l'habitude des procès. Qu'est-ce que cette poursuite a de particulier, demande la journaliste. Il y a d'abord l'ampleur extravagante hors norme des sommes réclamées par résolu, répond le spécialiste Clément Sénéchal. Il y a deux procédures lancées par résolu. L'une, intentée au Canada, réclame 7 millions de dollars canadiens. La seconde, aux États-Unis, demande 300 millions de dollars américains. Ce qui démontre que résolu ne conteste pas tel ou tel fait, mais souhaite tout simplement que Greenpeace mette la clé sous la porte. La seconde particularité tient au cadre législatif américain utilisé contre notre ONG. Les lois RICO, un dispositif qui a été mis en place dans les années 70 aux États-Unis pour lutter contre le crime organisé, contre la mafia. Pour résolu, Greenpeace est une activité criminelle. Et c'est l'ensemble de nos campagnes depuis 45 ans qui est visée. C'est une stratégie totalement inédite. Certes, il nous arrive régulièrement d'être poursuivis sur des faits précis, mais nous n'avons jamais été visés pour l'ensemble de nos activités, notre manière de faire campagne, la prétention à le faire. Qu'est-ce qui a mené à cet affrontement avec résolu, demande Télérama au représentant français de Greenpeace. Précisons d'abord qu'il s'agit d'une entreprise d'exploitation forestière, répond le membre de l'ONG. Une organisation qui est multimilliardaire, la plus importante du Canada et un des leaders du secteur aux USA. C'est aussi un des premiers fabricants de papier destiné à la presse et l'un des principaux fournisseurs de pâte à papier de l'édition. Nous n'avons pas toujours été dans des termes conflictuels avec eux. Dans les années 2010, Greenpeace et d'autres ONG ont travaillé main dans la main avec résolu, ainsi qu'avec d'autres entreprises du secteur forestier pour établir le Canadian Boreal Forest Agreement, le CBFA, une entente qui avait pour objectif de protéger la forêt boréale canadienne. Mais 3 ans plus tard, à peine 4% des hectares censés être protégés l'étaient effectivement par résolu. Les ONG parties prenantes de l'entente se sont rendues compte que la grande majorité des engagements de résolu n'étaient pas tenus. Résultat, Greenpeace et les autres ONG se sont retirés de l'accord ou ont cessé leurs relations de travail avec résolu. Télérama demande à Greenpeace dans cet entretien ce que reproche l'ONG exactement à résolu. Réponse, de refuser de contribuer à une gestion durable de la forêt boréale canadienne, d'en détruire des zones clés alors que l'heure est à l'urgente protection des forêts, comme l'a stipulé l'article 5 de l'accord de Paris en 2015. Cette zone est essentielle et pas uniquement pour les peuples autochtones qui en assurent la conservation depuis des temps immémoriaux. On y retrouve certaines des dernières vastes étendues de forêts naturelles non perturbées. Cette zone essentielle abrite des espèces menacées comme le caribou forestier qui disparaît parce que son habitat naturel disparaît sous les effets des coupes à blanc, des routes forestières ou des incendies. Cette zone protège le climat mondial puisqu'elle constitue l'un des plus importants réservoirs terrestres de carbone qui renferme plus de carbone que l'ensemble des forêts tropicales réunies. Alors je vous laisse poursuivre la lecture de cet entretien fascinant qu'a accordé le responsable de Greenpeace France, Clément Sénéchal, aux médias français Télérama sur le portail telerama.fr. Le titre « Greenpeace en procès contre résolu, l'ONG écolo en danger ». C'est sur cette nouvelle que se referme la revue de presse internationale pour les 18 et 19 mai. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques secondes avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute du débrief des 18 et 19 mai. On va maintenant passer à la revue de presse nationale. Dans le journal La Presse, sous la plume du journaliste Hugo de Grandpré, Edward Snowden presse Ottawa d'offrir l'asile à ses protecteurs. Edward Snowden a lancé un appel dans une vidéo diffusée sur YouTube mercredi pour exhorter la population à contacter le ministre de l'Immigration du Canada et le presser d'accorder l'asile à 7 individus qui ont hébergé le lanceur d'alerte lorsqu'il s'est réfugié à Hong Kong en 2013. Les demandes d'asile de ces 7 individus originaires du Sri Lanka et des Philippines ont été rejetées vendredi dernier par le département d'immigration de Hong Kong. En janvier, leurs avocats avaient présenté une demande pour obtenir le statut de réfugié auprès du gouvernement du Canada afin qu'il les empêche de retourner dans leur pays où, disent-ils, ils risquent d'être emprisonnés et persécutés. Ces trois familles s'établiraient vraisemblablement à Montréal où un organisme sans but lucratif a été créé afin de les parrainer. L'article de la presse rappelle qu'Edward Snowden, un ancien contractuel de la National Security Agency, est arrivé à Hong Kong en mai 2013 avec en main des documents sur les pratiques de surveillance de la population américaine par la NSA et ses partenaires internationaux. Ces renseignements ont eu l'effet d'une bombe lorsqu'ils ont été révélés pour la première fois dans des reportages du Washington Post et du Guardian le mois suivant. Edward Snowden est toujours recherché par les autorités américaines et habite présentement en Russie. Donc voilà en substance le résumé du parcours d'Edward Snowden et qui veut maintenant que Hong Kong et le Canada protègent ceux qui l'ont hébergé lors de son passage à Hong Kong en 2013. L'info se poursuit dans cette revue de presse nationale, toujours dans les colonnes du média La Presse. Énergie Est, pas d'enquête sur la rencontre avec Jean Charest. L'Office national de l'énergie, l'ONE, n'enquêtera pas sur la rencontre privée entre Jean Charest et les ex-membres du comité chargé d'évaluer le controversé projet d'oléoduc Énergie Est. Les trois membres de ce comité avaient dû se récuser en septembre dernier alors que fusaient les allégations de conflit d'intérêts. Jean Charest était consultant pour TransCanada, le promoteur d'Énergie Est, lorsque ses commissaires chargés d'étudier ce projet l'ont rencontré en janvier 2015. Les organismes environnementaux, Stratégie énergétique et l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique avaient demandé à l'Office national de l'énergie de faire la lumière sur cette rencontre pour identifier jusqu'à quel point l'intégrité de l'Office avait été compromise. Ils avaient également exigé que l'Office publie tout renseignement ou document entourant cette rencontre. Dans une décision publiée mercredi, le nouveau comité chargé d'évaluer Énergie Est soutient qu'il n'a pas le pouvoir d'ouvrir une enquête sur des événements passés puisque son mandat se limite à l'étude du projet. L'enquête demandée ne serait pas utile à l'objectif d'évaluation des demandes relatives à Énergie Est et au réseau principal Est, peut-on lire dans la réponse. Donc, cette nouvelle à propos du lobbyisme illégal de la part de Jean Charest lorsqu'il était à l'emploi de TransCanada, ça ne fera pas l'objet d'une enquête de l'Office national de l'énergie. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne et sur le site du journal La Presse. Sur le site du média conseiller.ca, Justin Trudeau a-t-il enfreint ses règles d'éthique, demande cet article rédigé par l'équipe éditoriale de conseiller.ca. Justin Trudeau pourrait avoir enfreint les règles d'éthique qu'il a lui-même instaurées lors de son accession au pouvoir en novembre 2015, rapporte Radio-Canada. Dans une enquête publiée cette semaine, la chaîne publique d'information révèle en effet que John Earhart, l'actuel trésorier du Parti libéral du Canada, est un ex-cadre de la firme KPMG. Or, lors de sa nomination en juin 2016, celui-ci travaillait pour le cabinet comptable au moment même où le comité des finances de la Chambre des communes passait au crible ses activités à l'île de Man, un paradis fiscal utilisé par plusieurs de ses riches clients pour échapper à l'impôt. Une situation qui place le premier ministre Justin Trudeau en situation de conflit d'intérêts, selon un expert en éthique contacté par la chaîne publique d'information. Donc, conseiller.ca, ici, qui fait la synthèse d'informations parues sur le portail de Radio-Canada. Je vous rappelle le titre. Justin Trudeau a-t-il enfreint ses règles d'éthique? Et on parle encore de KPMG dans cette revue de presse nationale. Une nouvelle qui paraît sur le portail de Radio-Canada. Disparition de documents relatifs à KPMG à l'Agence du revenu du Canada. La correspondance d'un ancien haut fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada a disparu avant le déclenchement d'une enquête dans l'affaire KPMG, ont appris des journalistes de l'émission Enquête et de la chaîne CBC. Au printemps 2016, le ministre du revenu national lançait une enquête indépendante après le dévoilement par Radio-Canada d'une amnistie avait été offerte par l'Agence du revenu à plus d'une vingtaine de riches clients de KPMG. Le cabinet comptable avait créé pour eux un stratagème destiné à cacher leur fortune sur l'île de Man, un paradis fiscal situé entre l'Angleterre et l'Irlande. L'enquête, menée par la professeure de fiscalité Kim Brooks de l'Université Dalhousie, a blanchi l'Agence du revenu qui avait suivi les règles en place, a-t-elle conclu. Mais Kim Brooks a-t-elle eu accès à toute la documentation, comme le promettait la ministre Diane Leboutillier? C'est la question que pose cet article de Radio-Canada. Des journalistes de CBC ont découvert en effet que des correspondances de l'Agence du revenu produites entre 2012 et avril 2015 et qui auraient pu aider à comprendre l'affaire KPMG auraient disparu. Une demande d'accès à l'information visant Richard Monroy, ex-responsable de l'application de la loi de l'Agence du revenu et KPMG, n'a pas été concluante. La documentation n'existe pas, a indiqué l'Agence du revenu pour toute réponse. Radio-Canada, par la suite, a fait une demande similaire au ministère de la Justice, aussi impliqué dans cette affaire KPMG. Cette fois, la réponse a été différente. Le ministère a confirmé l'existence de correspondances dans ce dossier, mais a refusé de les transmettre aux médias pour des raisons légales. Affaire KPMG, disparition de documents à l'Agence du revenu. Donc, c'est une affaire qui concerne l'évasion fiscale de clients richissimes canadiens. On va poursuivre cette revue de presse et continuer de parler de KPMG. Un conseiller de la ministre du Revenu a participé à une conférence financée par KPMG. C'est une nouvelle exclusive diffusée par Radio-Canada. Le président d'un comité qui conseille la ministre du Revenu, Diane Leboutillier, dans sa lutte contre l'évasion fiscale, a participé à un événement commandité par KPMG, a appris Enquête, une émission d'enquête de Radio-Canada, ainsi que des journalistes de CBC. Donc, le cabinet comptable KPMG est pourtant sur la sellette pour avoir aidé de riches clients à cacher leur fortune à l'étranger, rappelle cet article de Radio-Canada, co-signé par Gaétan Pouliot, Harvey Cashore et Frédéric Zalac. Alors, le conseiller en question, il s'agit du professeur de droit à l'Université Western en Ontario, Colin Campbell. Il a été nommé au printemps 2016 au poste de président d'un comité indépendant dont le mandat est de conseiller la ministre Leboutillier et l'Agence du revenu du Canada sur des manières de sévir contre l'évasion fiscale et la planification fiscale abusive à l'étranger. On poursuit cette revue de presse nationale pour parler de commerce canado-américain. ALENA, ou NAFTA si vous préférez, le compte à rebours est commencé. L'administration Trump a officiellement lancé le compte à rebours vers la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Le représentant au commerce, Robert Lighthizer, nouvellement confirmé par le Sénat, a donné l'avis réglementaire de 90 jours au Congrès de l'intention de l'administration américaine de moderniser, selon ses termes, l'accord commercial canado-américain en vigueur depuis 1994. Dans sa lettre aux dirigeants démocrates et républicains des deux chambres du Congrès, le nouveau représentant au commerce a indiqué souhaiter créer des emplois mieux rémunérés aux États-Unis et faire croître l'économie américaine. L'avis envoyé cette semaine lance un décompte de 90 jours qui nous amène à la mi-août pour le lancement des négociations des États-Unis avec le Canada et le Mexique, qui est l'autre partenaire de l'ALENA. La question du mode de négociation, trilatéral ou bilatéral, est revenue sur le tapis la veille, nous indique le journaliste de la presse, à l'issue d'une rencontre entre le nouveau représentant américain au commerce et le secrétaire au commerce Wilbur Ross, lorsque ces deux derniers ont rencontré un comité du Sénat américain. Au Canada, dans un communiqué, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a écrit qu'après de vastes consultations, nous sommes désormais à un tournant qui nous offre la possibilité de déterminer comment faire de notre mieux pour rendre l'ALENA conforme aux nouvelles réalités, a-t-elle déclaré, et pour intégrer des approches progressistes, libres et justes en matière de commerce et d'investissement. Nous sommes fermement résolus à favoriser le libre-échange sur le continent nord-américain et à faire en sorte que toute la population canadienne bénéficie des avantages du commerce, a-t-elle dit. Donc, je rappelle le titre de cet article signé par le journaliste Charles Côté dans la presse. ALENA, le compte à rebours est commencé. Et on va terminer cette revue de presse nationale avec une information sur la course à la succession de Stephen Harper au Parti conservateur du Canada. Une nouvelle qui paraît dans la presse, Kevin O'Leary serait le promoteur du candidat Maxime Bernier aux États-Unis. C'est signé par Mélanie Marquis. S'il est élu chef conservateur, Maxime Bernier aura l'appui d'un envoyé spécial officieux aux États-Unis, son ancien adversaire Kevin O'Leary. L'homme d'affaires est prêt à poursuivre ses interventions sur les plateaux de télévision au sud de la frontière afin de propager les valeurs conservatrices qu'incarne, selon lui, le beauceron Maxime Bernier. En se posant comme émissaire de Maxime Bernier au sud de la frontière, Kevin O'Leary, collaborateur occasionnel de la chaîne MSNBC, voudrait modifier l'image de marque du Canada à l'international. Kevin O'Leary compte aussi tirer profit de sa gigantesque présence sur les réseaux sociaux. « Je fais utiliser cela pour faire campagne en faveur des politiques de Maxime Bernier », a expliqué O'Leary. Ici se conclut la revue de presse nationale pour les 18 et 19 mai. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Les revues internationales et nationales sont bouclées dans cette édition des 18 et 19 mai. Nous allons maintenant passer à la rubrique francophonie. Nomination partisane aux langues officielles, Madeleine Meilleur sur le grill, c'est le titre de cet article signé par Mélanie Marquis dans la presse canadienne. La commissaire aux langues officielles nommée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, Madeleine Meilleur, ne s'attendait pas à ce que sa désignation déclenche une telle controverse. C'est ce qu'elle a affirmé à son arrivée au comité des langues officielles jeudi matin. La séance pourrait donner lieu à des échanges corsés, l'opposition tentant de bloquer sa nomination au poste de commissaire. L'ex-ministre libérale ontarienne a plaidé, lors d'un bref échange avec des journalistes avant son témoignage, qu'elle avait toutes les qualifications requises pour occuper le poste d'agent du Parlement. Madeleine Meilleur se présente devant les députés du comité quelques jours après l'annonce de sa désignation par Justin Trudeau. Les conservateurs et les néo-démocrates essaient de lui barrer la route. Ils estiment que le premier ministre a laissé la partisanerie guider son choix et qu'il n'est pas dûment consulté leur chef. Ils estiment que le premier ministre a laissé la partisanerie guider son choix et qu'il n'a pas dûment consulté les chefs de l'opposition, comme le stipule l'article 49 de la loi sur les langues officielles. Les leaders parlementaires des deux formations politiques de l'opposition ont donc fait un rappel au règlement à la Chambre des communes mercredi pour demander des clarifications à cet égard. Le président de la Chambre, Jeff Regan, n'avait pas encore rendu son verdict jeudi matin, mais cela n'empêche pas la comparution de Madeleine Meilleur devant le comité des langues officielles. En vertu de la loi sur les langues officielles, la nomination de Madeleine Meilleur doit être approuvée par la Chambre des communes et par le Sénat. Le comité sur les langues officielles disposera de 30 jours au préalable pour examiner la candidature et en faire rapport aux députés. Madeleine Meilleur a annoncé son retrait de la vie politique en juin dernier après avoir passé 13 années à siéger comme députée d'Ottawa-Vanier pour le gouvernement ontarien. Madeleine Meilleur a notamment été ministre déléguée aux affaires francophone, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels et procureur général de l'Ontario, rappelle cet article de la presse canadienne. C'était votre information à thématique francophone pour les 18 et 19 mai dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
Tous les jours me revient fatigué, épuisé, de me coucher épuisé. Me coucher fatigué. épuisé, de me coucher épuisé. De boucle en boucle passe encore le même instant. Robotisé, voilà comment je me sens. Je fais semblant d'être comme les autres, comme les autres.
Va bien, c'était une pièce de Daniel Bélanger. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon en votre compagnie. L'info se poursuit, c'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Alors, une nouvelle pour commencer qui nous vient du voisinage de la Colombie-Britannique. C'est pas tout à fait dans notre province, mais c'est à côté, à Seattle. Une nouvelle qui paraît dans le journal Les Affaires. Trudeau participe au sommet annuel de Microsoft aux États-Unis. Le premier ministre Justin Trudeau a fait la promotion du secteur canadien de la technologie et de son essor mercredi auprès des chefs d'entreprises technologiques à l'occasion d'un sommet à huis clos organisé par le grand patron de Microsoft à Redmond, dans l'État de Washington. Donc ça, c'est tout près de Seattle. Cette visite de Justin Trudeau aux États-Unis survient alors que l'administration souffle le chaud et le froid sur les occasions d'affaires des entreprises canadiennes dans le secteur des hautes technologies. Le discours protectionniste de Donald Trump et sa promesse de baisser l'impôt des entreprises pourraient se solder par un exode des investissements vers les États-Unis, alors que ces restrictions sur l'immigration pourraient attirer des cerveaux au Canada, notent les observateurs. Selon le cabinet du premier ministre, Justin Trudeau serait le premier chef d'État ou de gouvernement à être invité à prononcer un discours lors de ce sommet annuel organisé par Microsoft sur le campus de Redmond. Autrement dit, le campus de Microsoft. Son attaché de presse, André Lynn Halley, a soutenu que la participation du premier ministre Trudeau constitue une occasion importante d'encourager l'innovation, de promouvoir les investissements dans les secteurs des technologies et d'attirer au Canada les talents du monde entier. Et cet article indique que le sommet organisé par Microsoft a attiré plus de 140 chefs d'entreprise à Redmond, en banlieue de Seattle. L'événement annuel est fermé au public et le centre de conférence était entouré de gardes de sécurité, de véhicules noirs et d'agents de police armés. Et l'article du journal Les Affaires rappelle que Justin Trudeau était précédemment à Montréal pour souligner le départ des célébrations du 375e anniversaire de la métropole québécoise. Et justement, puisqu'il est dans le voisinage, Justin Trudeau s'adressera à ses sympathisants à Vancouver. C'est ce que nous indique le blog du Parti libéral. Je vous lis quelques lignes. C'est daté du 18 mai. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada, s'adressera à ses sympathisants à l'occasion d'une soirée de financement libéral ouverte à Vancouver le 18 mai 2017. Alors, c'est au Sheraton World Center, au centre-ville de Vancouver, en début de soirée. Aujourd'hui, jeudi, pour ceux qui nous écoutent dans la diffusion de jeudi en fin d'après-midi. Passage de Justin Trudeau dans notre province. On poursuit cette revue de presse provinciale pour parler de l'élection provinciale qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada, on nous informe que le Parti vert de la Colombie-Britannique est prêt à négocier à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique. Le chef des Verts, Andrew Weaver, a officiellement présenté l'équipe de négociation qui discutera avec le nouveau Parti démocratique et le Parti libéral pour s'assurer que leurs priorités soient prises en compte. Cet événement du Parti vert fait suite à ceux tenus par le Parti libéral et par le NPD plus tôt cette semaine, durant lesquels Christy Clark et John Horgan ont parlé de collaboration. D'entrée de jeu, lors de son point de presse, Andrew Weaver a annoncé que son parti était en négociation actuellement. Nous commençons les négociations en personne dès à présent, a-t-il dit aux médias. Ces négociations vont se faire avec une équipe composée du chef des Verts, de la députée Sonia Furstenau, de la chef d'équipe Liz Lilly et du consultant et ancien conseiller politique de droite Norman Spector. À propos de Norman Spector, un résident de Victoria, soit dit en passant, Andrew Weaver affirme qu'il n'a aucune intention politique et qu'il est là parce que le parti recherchait quelqu'un qui a une compréhension profonde de la stratégie politique. Humblement, le chef du Parti vert avoue que personne dans l'histoire du parti provincial ne possède une expérience suffisante de stratège politique. Alors, cet article rappelle que le Parti vert a réalisé une percée historique en remportant 3 sièges ici sur l'île de Vancouver lors des élections provinciales la semaine dernière, lesquelles ont débouché sur une situation de gouvernement libéral minoritaire. Bien que ce soit encore en suspens, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y ait un gouvernement libéral minoritaire actuellement, comme le fait Radio-Canada. Alors, je vous invite à lire cet article qui paraît sur le portail de Radio-Canada et qui fait le topo sur la présentation qu'a faite le chef des Verts, Andrew Weaver, aux médias. Et en substance, le chef des Verts a indiqué qu'il amorçait ses négociations tant avec le NPD qu'avec les libéraux. Et le médiateur qui a été choisi, Norman Spector, c'est un ancien conservateur, un ancien proche de Brian Mulroney. Donc, c'est quelqu'un qui est très marqué à droite et c'est peut-être pourquoi Andrew Weaver s'est dépêché de dire que Norman Spector n'avait aucune intention politique et qu'il voulait simplement faciliter les négociations. Ça reste à voir. On va aussi vous suggérer un article qui paraît sur le portail de Check News, checknews.ca. C'est un média local indépendant. Et c'est en substance de la même eau. Donc, on revient sur la présentation qu'a faite Andrew Weaver en compagnie de Sonia Furstenau à propos des négociations qui vont s'amorcer. Et ce qui est intéressant sur l'article de Check News, c'est qu'on a une vidéo du point de presse effectué par Andrew Weaver. Donc, vous pourrez vraiment l'entendre de vive voix indiquer qu'il amorce ses négociations avec les deux autres parties britanno-colombien sur le portail checknews.ca. On va revenir sur le portail de Radio-Canada. Des dirigeants autochtones signent une déclaration d'opposition à Keystone XL. Keystone XL, c'est le pipeline format géant qui traverserait le Midwest américain et contre lequel se sont battus de nombreux autochtones dans le Kansas, si ma mémoire est bonne. Et je vous lis quelques lignes de cet article paraissant sur le portail de Radio-Canada. Des chefs de la Confédération des Pieds Noirs au Canada et des Great Sioux des États-Unis ont signé un texte commun dénonçant la construction du pipeline Keystone XL approuvé par Donald Trump au mois de mars. Les chefs réunis à Calgary mercredi disent représenter des milliers de membres des Premières Nations. Ils souhaitent exprimer leurs inquiétudes à Calgary, la ville où siège la compagnie TransCanada, qui est derrière ce pipeline format géant. Judy Wilson, la chef de la Première Nation Nesconlit de Colombie-Britannique, a signé le document auprès d'autres chefs des Premières Nations représentant l'Alberta, la Saskatchewan et les États-Unis. Nous attendions ce moment de voir nos nations se rassembler depuis très longtemps, a déclaré Judy Wilson dans cet article de Radio-Canada. Voilà, si vous voulez pousser un petit peu plus loin la lecture de cet article, il y a d'autres citations de chefs co-signataires de cette grande déclaration contre Keystone XL. C'est dans le portail de Radio-Canada, Alberta. Toujours à propos d'Alberta et des relations qu'entretient la Colombie-Britannique avec l'Alberta, l'Alberta conseille à la Colombie-Britannique de ne pas prendre l'économie en otage. Donc, ce sont les mots et le point de vue de Rachel Notley, première ministre albertaine. La première ministre albertaine, Rachel Notley, a adressé une mise en garde sèche aux politiciens de Colombie-Britannique, affirmant que s'opposer à la construction de l'expansion du pipeline Trans Mountain reviendrait, selon elle, à prendre en otage l'économie de tout le Canada. Alors voilà, donc ça n'est pas étonnant de la part de la première ministre, c'est dans la continuité, c'est dans la ligne de ce qu'elle a déjà déclaré dans le passé. Donc j'imagine, on peut imaginer que Rachel Notley est inquiète de voir que le Parti vert a la balance du pouvoir maintenant en Colombie-Britannique. Donc cela explique la sortie qu'elle a faite auprès des médias cette semaine. Je vous encourage à lire ce texte qui paraît encore une fois dans le portail albertain de Radio-Canada. On va parler d'environnement plus spécifiquement, inquiétude concernant la qualité de l'eau dans des communautés de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Les communautés aux abords de la rivière Shuswap et du lac Shuswap dans l'est de la Colombie-Britannique sont sous le coup d'avertissements reliés à la consommation d'eau après que deux incidents isolés de déversement de carburant sont survenus dans la région. Mardi soir, un camion citerne s'est renversé sur la route du lac Maple à l'est d'Enderby, déversant près de 4000 litres d'essence et 12 500 litres de diesel dans un champ inondé sur les berges de la rivière Shuswap. Dans un communiqué, la Régie de la Santé de l'Intérieur a déclaré qu'il n'a pas encore été déterminé si le carburant avait pénétré dans la rivière. L'autorité sanitaire dit cependant avoir contacté les opérateurs de systèmes d'eau des communautés d'Enderby et de Grenrod. Donc, inquiétude en Colombie-Britannique dans l'intérieur de la province suite à un déversement d'essence et de diesel. C'est sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Et Radio-Canada nous apprend également que dans l'affaire Robert Dzikansky, la Cour suprême entendra l'appel de deux agents de la GRC. La Cour suprême du Canada se penchera sur l'appel de deux agents de la GRC reconnus coupables de parjure dans l'affaire Robert Dzikansky, cet homme mort après avoir reçu des décharges de pistolet Taser à Vancouver il y a plusieurs années. L'agent Millington et son collègue, l'ancien caporal Robinson, avaient notamment été reconnus coupables de s'être entendus pour livrer un faux témoignage. Une nouvelle qui nous arrive de Vancouver, les détecteurs de carbone seront obligatoires maintenant dans les limites de la municipalité. La ville de Vancouver vient de mettre en place un nouveau règlement rendant obligatoires les détecteurs de monoxyde de carbone pour tous les logements équipés d'appareils consommant des combustibles ou d'un garage attenant. C'est dans le portail de Radio-Canada. Et on va refermer avec une nouvelle qui paraît sur le portail indépendant de Taï, un portail indépendant qui a son bureau ici, son bureau chef ici à Victoria. BC Liberals Housing Plan worsens affordability crisis. Donc le plan d'accès au logement des libéraux de Christy Clark aggrave la crise du logement en Colombie-Britannique, en fait, plutôt que de la soulager. C'est sous la plume du journaliste Andrew McLeod. C'est dans l'édition du jour du Taï. Et c'est avec cette actualité du Taï qu'on va boucler le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on scrute la météo des prochains jours sur le site d'Environnement Canada. À tout de suite. Merci d'être avec nous. On va jeter un petit coup d'œil à la météo, au temps qu'il fera dans les prochains jours. On se rend tout de suite sur le portail de météo.gc.ca, le portail d'Environnement Canada. Pour ceux qui nous écoutent dans la fin d'après-midi du jeudi 18 mai, on a actuellement 14 degrés au mercure à l'aéroport de Victoria. Ça oscille entre 13 et 14 actuellement. Un mélange de soleil et de nuages, c'est ce qu'on a eu en cours de journée jeudi. Ça va demeurer ainsi au cours des prochaines heures. Le mercure température va descendre à 9 degrés. Demain, vendredi 19 mai, ce sont les nuages qui vont dominer, nous indique Environnement Canada, avec un maximum de 18 degrés. Et pour le week-end, ça semble se présenter sous un jour très favorable. Samedi 20 mai, 19 degrés avec du soleil, aucun nuage à l'horizon. Ce sont les prédictions d'Environnement Canada, du moins. Et dimanche 21 mai, rebelote, même scénario, 24 degrés. On atteindra 24 degrés, une température vraiment estivale, dimanche 21 mai. Et ça semble vouloir se poursuivre ensuite et former une sorte de tendance dans les jours qui vont suivre, 22, 23, 24 mai. Ce sera à peu près identique. Le mercure pourrait même monter à 26 degrés, mardi 23 mai. Mais c'est encore bien loin. Pour le moment, je le disais, vendredi, ce seront des nuages, maximum de 18, et le soleil sera avec nous durant la fin de semaine. On va se laisser avec une pièce de Lydia Kepinski, intitulée Andromaque. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9. À bientôt!
Parmi les ombres, l'être parmi les nombres, le vote parmi les lévriers. J'avais les pieds attachés au pot du balancier. Je planais sans me soucier de ma trajectoire. Le hic, c'est le miroir qui me l'a dit. Prends garde aux hommes, à l'amour physique. J'étais femme parmi tant d'autres, Amazon parmi les pauvres, une ortie dans la grande forme. Couleuvre parmi les tièvres, je passais inaperçu jusqu'à ce que je fasse mes preuves. Et enfin, pour m'y reconnu, la veuve parmi les pleurs, c'était moi. Le regard ivre de mensonges, il me fallait pour survivre suivre la longe, le fil d'Ariane qui m'enfonce dans l'éponge, dans les décombres de vos détails. Et j'étais Roxane, j'étais Roxane. Le regard ivre de mensonges, il me fallait pour survivre suivre la longe, le fil d'Ariane qui m'enfonce dans l'éponge, dans les décombres de vos détails. Et j'étais Roxane, j'étais Roxane. Et j'étais en dessous sous le ciliac, le corps en équilibre dans les vapeurs d'ammoniaque. J'étais démoniaque, entêtée sur la peau qui vibre sous la pulsation cardiaque. J'étais démoniaque, flashback, les yeux mouillés, la peau qui craque dans le verre qui pèle, le sang écarlate. Flashback, les yeux mouillés, la peau qui craque dans le verre qui pèle. Revenez. Vous serez enfin chez vous, comme une maison qui a brûlé en votre absence.
CILS FM, la voix de votre communauté.
petits qui peinent comme des chiens. Ils sont dans les vignes qui peinent comme des chiens. Ils sont dans les vignes qui peinent comme des chiens. Ils boivent la piquette et nous le bon vin. Et nous, et nous le bon vin.
Avec l'espoir au bout de l'air qui diront la vie. Et si on retombe, et si on s'oublie, on prendra pas la prochaine sortie. Et si le ciel gronde, l'horizon s'assombrit, autant aimer la pluie. À ta santé, à la joie, au moins jusqu'à la prochaine fois. À ta santé, à la joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois.
Allez, balayer l'air. Tous les je t'aime tombés sur le plancher. Emporter, emporter l'air. Les vieux regrets que l'on trinque enfin à notre santé. Et si on retombe, et si on s'oublie, on prendra pas la prochaine sortie. Et si le ciel tremble, l'horizon s'assombrit. Autant aimer la pluie. À ta santé, à ta joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois.
Ici France Langlois, vous écoutez CILS 107.9 FM à Victoria, votre radio communautaire.
Vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.
Allô la planète avec Chapka.
Et mes frères et mes sœurs, bienvenue dans le temple du bonheur. C'est bien comme ça, non? C'est Allô la planète, l'émission avec que des gens heureux qui se promènent dans le monde ou qui y vont ou qui en reviennent ou qui ont envie d'y aller et qui nous en parlent de ce monde tel qu'il est autour de nous. Et parfois on le regarde pas assez, mais eux ils le regardent. Il y a comment ils s'appellent, Margot et Adrien, qui se sont baladés. On les avait eus la dernière fois, je crois qu'ils étaient au Guatemala. Ils sont revenus en France, ils repartent. Enfin bon, la vie est belle. Notre ami Gaspard Walter, photographe, sort son nouveau livre sur Tokyo. Il est à Bangkok en ce moment avant d'arriver à Paris, où je l'attends avec impatience dans le studio. On lui passera un petit coup de fil et on démarre avec des cuistots.
Allô la planète avec Eric Lange.
Et parmi le groupe de trois cuistots dont nous allons parler, il y a Luc. Salut Luc.
Bienvenue. Bonjour Eric.
Dis-moi, là, Luc, t'es dans la rue à côté du resto où tu travailles et t'as 5 minutes devant toi.
C'est mais ça, exactement, j'ai même 10 minutes, un petit peu serré.
Mais, t'as ton tablier blanc, tout ça?
Alors non, moi je suis pas cuistot, moi je suis serveur. Moi je m'occupe de toute la partie service en salle.
D'accord, mais t'as ton uniforme sur toi?
Et j'ai mon uniforme.
Bah, je te dis ça parce que j'en vois souvent, tu sais, quand tu te balades dans Paris, tu vois souvent des types, des serveurs ou des cuistots. Vite fait, tu sens que c'est à l'arrache. Ils sont en train de fumer une cigarette sur le bord du trottoir à côté de la porte de service et ils fument, ils tirent comme des malades sur la clope. Ils savent qu'ils ont, ils ont genre 1 minute 30 devant eux avant qu'on les engueule. Ils sont...
Voilà, ça peut arriver.
Écoute, bienvenue dans Allô la planète, cher ami. Avec deux amis, tu représentes le Jeeves Project.
Tout à fait, exactement.
Ça veut dire quoi, Jeeves, d'ailleurs?
Alors, c'est Give Project, qui désigne, give en anglais, donner, parce qu'on a envie de transmettre quelque chose, de donner des choses aux gens, mais sauf que nous, on a interprété le G de gastronomie, le E de éducation et le EV de environnement, puisque notre voyage se tournera autour.